Vous écoutez France Culture.
Je veux que tout change.
Vous entrez dans les ateliers de la nuit.
Et il y a du monde ce soir dans l'atelier, effectivement, phonoscopie dont vient de parler Aurélie, on en parle dans quelques minutes. Tout à l'heure, on parlera d'une revue en papier et d'un disque en vinyle signé Optical Sound, un label qui fait aussi donc de l'écrit, avec Pierre Belloin, Nicolas Ledoux et Christophe Demarthe qui sont là. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
On parlera avec vous tout à l'heure de ces deux beaux objets que sont cette revue, ce numéro 1 Optical Sound et puis ce vinyle qui l'accompagne, beaux objets classe et sonore. Mais d'abord, donc, Coil the Green Child, un objet, deux objets, c'est à souligner à l'heure du dématérialisé, deux objets apportés ce soir donc par Pierre Belloin, Nicolas Ledoux, Christophe Demarthe. Bonsoir à chacun. Pierre Belloin, vous êtes artiste, vous dirigez le label Optical Sound que vous avez fondé encore étudiant.
Au 97, oui, la fin des Beaux-Arts de Paris.
Vous avez fondé ce label. On avait parlé il y a quelque temps d'une sorte de compilation de reprises de Nino Ferrer qui était sorti.
Complètement.
Voilà, chez Optical Sound, ça s'appelait Objet
Noir, Chose Carrée.
Voilà. Et donc on va pouvoir reparler de production d'Optical Sound ce soir à travers ces deux objets. Je continue quand même les présentations. Nicolas Ledoux, vous êtes artiste, vous êtes graphiste, vous êtes membre du collectif Ultralab.
Voilà.
C'est vrai. Et vous vous occupez d'un studio graphique ABM.
Voilà, ABM Studio.
ABM Studio, le studio ABM Studio. Voilà. Art, book, Friend Magazine.
Artbook Magazine, ça c'est une plateforme, une librairie sur iPad. C'est compliqué, enfin, on fait beaucoup de choses.
Ouais, beaucoup de choses, on va parler de beaucoup de choses avec vous ce soir. Christophe Demarthe, vous êtes musicien.
Oui.
Vous pratiquez sous le nom de Clair Obscur et aussi sur celui de Cocoon. Est-ce que je me trompe?
Ah oui, Clair Obscur, un groupe que nous avons fondé au début des années 80 dans la scène post-punk. Et Cocoon, un projet plus récent, quoique, puisque c'est 2004, projet solo, électronique, performance. Global.
Et il y a un nouvel album de Clair Obscur ces temps-ci.
Ah non. Non, il n'y a pas vraiment d'actualité.
Il est presque nouveau.
Il est
cellophané, mais il a quand même deux, trois ans. C'est le dernier en date, en fait.
D'accord, c'est le dernier en date depuis deux ans. Oui. Et ça s'appelle We Gave a Party for the Gods and the Gods All Came.
Absolument.
C'est bien quand les gens viennent à la fête. Alors, d'abord, les deux objets, c'est un vinyle et c'est une revue. Et c'est une revue, Pierre Belloin, qui porte le nom d'Optical Sound. Optical Sound numéro 1, mais c'est un faux numéro 1.
C'est un faux numéro 1, puisqu'on a eu un hors-série avant qu'on avait fait pour l'exposition Manifeste à l'Expo de l'Art Concret. Et puis un numéro 0 aussi. On était dans des formats un petit peu différents. Puis là, avec Nicolas et toute l'équipe, on s'est dit qu'on allait... On allait travailler sur quelque chose d'un peu plus conséquent. On a calculé un poids de 652 grammes, qui nous paraissait correct.
Oui.
Donc un joli petit pavé. Ça a été beaucoup de travail, mais beaucoup de plaisir aussi. À peu près un an de boulot, Nicolas. Est-ce que c'est intéressant de dire
Une année, oui.
Une année pour aboutir à ce pavé de 652 grammes qui est traversé par beaucoup de questions. On parlait de globalité à l'instant. Il y a plein de questions, mais il y a une chose que vous dites dans une sorte d'édito qui n'est pas au début du livre, de la revue, c'est que on est là pour fixer quelque chose qui est en train de partir un peu dans tous les sens. On essaye de rassembler quelque chose d'artistique dans ce livre-là, Pierre Belloin.
En tout cas, pour ma part, rassembler les énergies, quoi qu'il en soit. Ça a toujours été une de mes préoccupations. On peut parler de dématérialisation des choses, etc. Nous, on avait envie de faire un truc concret sous la forme imprimée, avec ce vinyle qui est lié à la revue. Il y a un pendant aussi, une exposition au Project Room chez Agnès B, qui met un petit peu en lumière tout ce qui est récupéré actuellement dans la musique.
Voilà. Une exposition donc, qui dure jusqu'au 26 octobre. C'est rue Quincampoix à Paris.
Au 44, oui.
Voilà. Quincampoix. Faire une pause, vous dites aussi dans ce texte un peu de présentation, faire une pause dans le flux, c'est ça Nicolas Ledoux ?
Oui, enfin le désir de faire un objet imprimé était fort. C'était face à l'accélération des données, des informations qu'on reçoit tous les jours dans nos écrans, toutes ces newsletters, tous ces événements. Il n'y a plus qu'une production finalement de flux et de micro-informations et on avait envie de prendre le temps de fixer en effet les choses et surtout de donner de la place et de l'espace aux gens qui nous intéressent et aux formes d'art qui sont assez peu représentées ou assez peu visibles. Et donc la revue était un média parfait. Et elle s'articule aussi comme une forme de production artistique aussi pour nous en tant que finalement producteurs, où on ne trouve pas forcément toute notre place dans les institutions, où il faut fabriquer des objets, où il y a aussi là, une accélération du flux, aussi vite exposé, aussi vite retiré, aussi vite présenté, aussi vite soit archivé, soit mis à la cave, soit vendu. Et donc... Le format papier, finalement, cet objet un peu archaïque, lourd, il est en noir et blanc, un petit peu rébarbatif comme ça, nous permettait de donner, finalement, assez paradoxalement, du temps et de la place.
Dans l'esthétique, on parlait de post-punk tout à l'heure avec vous, Christophe Demarthe, est-ce que cette esthétique, noir et blanc, voulue, très contrastée, il y a quelque chose qui reste de l'esprit post-punk ou punk?
Alors, il y a une filiation, c'est peut-être plutôt, oui, post-punk, mais c'est surtout une réaction au tout quadri, à toutes ces revues, ou à tous ces gratuits, finalement, où il y a une surenchère de qualité d'impression, mais très peu de mots à l'intérieur, ou très peu de contenu. Et on s'est dit qu'il fallait retourner la force et donner un objet qui paraissait pauvre, donc qu'on avait envie de prendre, mais on le lit vraiment ou on ne le prend pas. Donc ça participe à cette esthétique du peu. Donc aussi une esthétique du fond par rapport à une esthétique de la forme
superficielle.
Voilà, donc mais paradoxalement il y a une version en couleur numérique qui elle prend une autre dimension, mais aussi, on est dans le peu puisqu'elle est toute légère, elle n'a pas de matérialité, on ne peut pas la donner, on ne peut pas la montrer, on ne peut pas frimer avec, Donc là, on a mis de la couleur et on a redonné de l'espace aux œuvres et aux images. Donc c'est des jeux un peu complexes comme ça. On prend, on donne, on apparaît, on disparaît. Rétention, don.
Cette revue Optical Sound avec un axe éditorial qui est le lien pour ce numéro 1 entre art et musique ou musique et art, puisque vous êtes partagé selon l'ours de la revue, la tâche art et musique pour Pierre Belloin et musique et art pour vous, Nicolas Ledoux.
Ce qui est assez différent. Hein,
c'est le contraire Belloin, en plus.
Ouais. C'est le contraire. D'accord, je l'avais oublié.
Ça veut dire quoi, Pierre Belloin?
Art et musique, ben, ça a toujours été, en tout cas ça m'a toujours intéressé moi. Je suis venu aux arts plastiques par la musique étant tout jeune, en découvrant des pochettes de disques à 12-13 ans. Je me suis dit, bon ben ok, Warhol a fait les pochettes du Velvet, un peu plus tard Sonic Youth, Mike Kelly, je suis toujours un petit peu ces auteurs-là. Et aux Beaux-Arts de Paris, en fait, j'avais pas vraiment de gens, d'interlocuteurs avec qui discuter de musique, hein, de musique et d'art plastique. Je suis allé visiter l'école de CalArts à Los Angeles, qui est un peu le fief de Mike Kelly, d'artiste que j'aime beaucoup. Et à l'époque, ça démarrait pas encore, tout ce qui était musique, art plastique. Et c'est arrivé il y a une dizaine d'années comme une grosse tendance en France. Donc peut-être l'avantage que j'ai par rapport à certains plasticiens, c'est d'avoir vraiment un fond musical assez conséquent, et c'est un de mes piliers culturels, quoi, la musique. Donc tout est toujours lié et inspirateur.
Il n'y a plus vraiment de frontières, en tout cas, nous, dans la manière dont on travaille ou les gens avec qui on collabore, on produit des choses, finalement, musique, son, texte, image, il y a... c'est vraiment... Enfin, la revue... est un moment où on a prélevé des éléments, donc inévitablement imprimés ici, puisque c'est une revue, mais qui viennent de tout horizon. Et,
oui, il y a des citations même, il y a des vraies citations, puis il y a des morceaux de choses qui ont été publiées ailleurs. Enfin voilà, c'est aussi.
Voilà, il n'y a plus vraiment de frontières finalement. Ouais. C'est, en plus, les musiciens maintenant font de l'art, les artistes font de la musique, le graphisme est partout, il n'y a plus non plus d'espace dédié, donc tout est un peu mélangé, et c'est ce qu'on a voulu traduire. Donc quand on dit. Art, musique, c'est plus pour résumer les choses et donner un petit territoire propre. Mais c'est confus et volontairement confus. Je pense que ça doit l'être de plus en plus et je trouve ça très bien.
Oui, il n'y a pas de rubrique, il y a un sommaire mais qui est léger. Il n'y a pas de repères. On plonge volontiers en fait, dans cette revue. Et en fait, finalement, les repères, ce sont quelques noms. Quelques noms qui restent finalement encore incontournables. Ça s'ouvre quand même sur Marcel Duchamp.
En effet.
Il faut continuer à ouvrir sur Marcel Duchamp, Nicolas Ledoux.
C'est notre grand-père. Alors, on a un autre Marcel qu'on aime bien, c'est Brouters.
Donc, qui clôt, d'ailleurs.
Voilà, on continuera, je pense, peut-être dans l'autre sens pour le prochain numéro. Ouais. C'est bien aussi de ramener un petit peu d'histoire. On a tous construit notre culture par, en effet, un disque qui nous a fait découvrir un artiste, qui nous en a fait découvrir un autre.
La grande chaîne artistique, ouais.
Et aujourd'hui, dans cet éclatement, je pense qu'il est bon de poser des repères. Dans tous les sens. Il y a notamment des Guy Vaucher, qui est une artiste anglaise, qui a construit l'esthétique punk, finalement. Donc c'est bien de la placer aussi à cet endroit-là. Maintenant, c'est quasi une vieille dame. Et on peut la mettre à côté d'un musicien beaucoup plus jeune. Mmh. Et je crois que c'est important, de recréer des liens, mais de dire aussi avec précision qui a fait quoi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion sur les fils historiques. Donc on essaye, avec nos obsessions, évidemment, on aime beaucoup les deux Marcel.
Oui, les deux Marcel, il y a aussi, on retrouve William Burroughs, Andy Warhol, quelques paroles, une parole, au moins une citation de Bertolt Brecht. Il y a Peter Zendi, le philosophe, qui a beaucoup parlé de son, voilà, une citation sur le son, l'espionnage. C'est aussi une manière de dire à chacun, piocher, allez-y, ou ignorer si vous voulez. J'ai l'impression que c'est présenté aussi comme ça.
Tout à fait. Il y a une part de responsabilisation de la personne qui va s'engouffrer dans la revue. Après, elle peut le faire de façon très superficielle. On a mis en place un système graphique aussi qui permet comme ça de la feuilleter un petit peu. Et après, à chacun de faire son chemin et de souffrir un peu ou au contraire de prendre plaisir s'il connaît les sujets dont on parle. Le rythme des citations a été mis en place par Stephen Wright avec qui on collabore. Et qui travaille sur le secret, justement. Donc, ça dit aussi peut-être que ce que vous allez lire n'est pas forcément ce que c'est. Il y a des pièges, il y a des leurres. Tout n'est pas réel dans la revue. Et on s'est amusé avec le matériau même de la revue, donc de sa construction.
Et puis donc, en miroir de cette revue, il y a un disque, des morceaux qui sortent, un disque qui existe en vinyle et qui s'ouvre par ça.
Facing the programmed end of audio material, we want to mark the release of this Optical Sound numero 1 issue with a 300-copy 12-inch vinyl compilation, the one you are now playing on your turntable. May it turn in peace. The selected bands and the present track list are in Echo 2, your funeral soundtrack. There is a questionnaire in the magazine, one that will extend the false romantic vision extracted from our preferred phrase, we were already dead in the 80s. Here is a strange soundscape, exclusively compiled with new and unpublished material.
We've invited different musical personalities from our label.
Others join us here for the first time. All of them define a soundscape that we defend. A blood-red translucent LP, two stories, two sides that follow. We got loaded psychic guns on our belts. Now we're gonna use them. Music for Death, from Circles to Square. Directed, produced, and compiled by Optical Sound.
Summer 2013.
Mastering, Sound Sorcerer, Norsk. Photography, P. Nicolas Ledoux. Graphic Design, ABM Studio. Released alongside with Optical Sound Numero 1, the Art and Music Magazine. ISBN 978282160553. Distributed by R. Diffusion. The catalog reference for this release is OS.061. The voice you are listening to is mine, Black Safichi.
Dans la revue, il y a la revue Optical Sound, il y a une sorte de discographie critique de Jérôme Knox. Il y a des peintures de Thomas Lévillane, contemporain, cadrage un peu de, on va dire décadré, voilà, un petit peu pour certaines peintures. Il y a une interview du Pete Best de Kraftwerk, celui qui n'a pas été dans le groupe au moment de ses grands succès, mais qui était là au début, Eberhard Kranemann, qui livre un entretien à Emmanuel Mir. Voilà, pour donner quelques repères dans cette revue dans laquelle on doit se plonger. Donc, selon sa subjectivité, on l'a compris. Et puis donc, il y a ce disque qui s'ouvre par ce, on peut dire, ce poème, en quelque sorte, cette lecture poétique.
Poème introductif, de Black Safichi.
Black Safichi. Et en fait, le lien qui se fait entre la revue et ce disque, dont le titre est Music for Death, From Circles to Square, il y a une sorte d'exercice que vous proposez, Pierre Belloin, à des artistes autour de vous, et que vous appliquez à vous-même, c'est définissez, donnez deux morceaux pour vos propres funérailles, c'est ça?
Oui, choisir deux morceaux destinés à être diffusés lors de vos propres funérailles. Donc le standard de deux morceaux, c'est un petit peu la durée maximale dans un funérarium. Bon, après, on pourrait imaginer des fêtes qui durent une heure, deux jours, trois jours, une semaine. Mais là, le contexte, c'est deux morceaux. Ça me paraissait assez intéressant, puisque sur deux morceaux, c'est comme un 45 tours, on a deux faces. Deux univers ou deux facettes d'une vie ou deux facettes d'une personnalité. Alors c'est assez intéressant de voir certains titres qui reviennent quand je pose cette question à des amis, des artistes, des écrivains, musiciens, et puis des trucs qui sont complètement décalés. Voilà. Alors le pendant, c'était ce disque-là, Music for Death, le pendant à ce questionnaire funéraire. Et les musiciens qui ont été sélectionnés sur le disque proviennent uniquement de gens qui sont interviewés ou qui ont des portfolios dans le numéro 1 de la revue.
Voilà. Et donc vous y êtes, Christophe de Marthe?
J'y suis.
Donc on vous a posé cette question, Pierre Belloin vous a posé cette question, vous l'avez accueilli comment ?
Comme une question de Pierre, c'est-à-dire assez inattendu, mais bon, après le connaissant plus personnellement, je n'étais pas trop surpris. Je voulais juste dire que le morceau qui est dans le disque, ce n'est pas le morceau que j'ai mis dans le questionnaire.
Non,
parce que dans le questionnaire, je n'allais pas mettre un morceau de moi. Enfin, je n'ai pas spécialement envie d'écouter un morceau de moi.
Vous avez cité un ami.
Surtout que je ne pourrais pas vraiment l'écouter.
sait-on jamais. Mais non, vous avez cité un camarade, puisque c'est Jean-Sébastien Bach.
Exactement.
Voilà. Précisément.
Les deux passions. Puisqu'il fallait deux morceaux.
Oui, et vous avez accompagné ça d'un commentaire. D'ailleurs, quelques-uns ont accompagné leur réponse d'un commentaire. Bach, il n'y a pas plus classe pour un finissage d'exposition.
Je ne me souviens plus du commentaire.
je l'ai lu. Comment vous décririez-vous en tant qu'artiste dans cette nébuleuse Optical Sound? Comment vous décrivez Optical Sound, vous, Christophe de Marthe, cette démarche qui est quand même à la frontière ou dans le mélange de pas mal d'activités?
Ben, moi, je trouve dans Optical Sound quelque chose qui me manquait un peu au tout début des années 80, parce qu'on parlait tout à l'heure de transversalité. Moi, je n'ai pas vraiment le souvenir de cette transversalité. Je me souviens plutôt de
cloisonnement.
De cloisonnement. Par exemple, je me souviens que quand j'allais à un concert, je ne rencontrais pas les gens que je pouvais rencontrer à un spectacle au Théâtre de la Ville, de Pina Bausch, ou à la Cartoucherie de Vincennes, de Mnouchkine, et réciproquement. Et j'en parlais avec Jérôme Knox, il n'y a pas très longtemps, qui a fait pendant un certain temps les musiques de Christian Rizzo, de ses spectacles chorégraphiques. Il disait, oui, les gens me disent qu'ils aiment mon travail pour Rizzo, mais je ne les vois pas à mes concerts. Donc, il y a pas ce... Et donc, avec Optical Sound, il y avait enfin ça, puisqu'en fait, les deux Pierre, Pierre Nicolas et Pierre tout court, comme ils l'ont dit, ils sont venus à l'art avec cet amour de la musique. Donc, ça, voilà, c'était un peu une même façon de ressentir les choses.
Vous avez l'impression qu'on va vers moins de décloisonnement, au-delà du cas Optical Sound ?
Ouais, mais ça peut être aussi quelque chose de l'ordre de la mode qui n'est pas forcément... donc là, enfin, c'est pas tout blanc, tout noir. Quoi.
C'est-à-dire que c'est à la mode d'être décloisonné et qu'il peut y avoir des retours de place, c'est ça ?
Bien sûr.
Oui, Pierre Bellouin ?
Oui, absolument. D'ailleurs, tout ce qu'on appelle transversalité, ça existe depuis le début du siècle ou bien avant. Dès qu'il y a eu des médias comme danse, musique, photographie, ça existait, mais ça se faisait naturellement, pas dans une tendance... quelque chose de fashion pour les cartons d'invite ou une expo au Palais de Tokyo ou un peu bordélique qui part dans tous les sens. Quoi. Bon, là, voilà.
Est-ce que, puisqu'on dit que c'est le numéro 1 d'Optical Sound de la revue, est-ce qu'il y aura un numéro 2 ou est-ce qu'on passe directement au numéro 5? Enfin, comment ça peut se passer?
Oui, on va peut-être brouiller les pistes. Qu'est-ce qu'on pense, Nicolas?
Peut-être faire à l'envers.
À l'envers, à moins 1 alors. Le moins 1.
Le moins 1.
Le prochain sera peut-être le moins 1. Ouais, on descend. En tout cas, oui, il y en aura un autre au niveau de l'ordre de la parution. Bon, ben, on reste sur quelque chose d'aléatoire. On aimerait bien essayer de le faire une fois par an, éventuellement.
On envisage aussi de faire des numéros hors série qui pourraient être liés à des expositions ou à des événements ou des propositions d'autres artistes. Il faut le prendre un petit peu comme une plateforme. Nous, on en tient les rênes, mais après, c'est relativement ouvert et ça doit le rester. C'est une économie extrêmement légère qui nous permet d'intervenir où on veut. Donc, on a cette liberté. Après, justement, on observe et puis, en fonction des propositions, on réagira. En tout cas, il y aura certainement un numéro suivant qui sera à peu près dans la même tonalité, à peu près le même type d'objet.
Est-ce qu'on n'est pas en face de la matérialisation de la fameuse zone autonome temporaire d'Akimbe, un concept qui a monté avec le web? Est-ce que tout d'un coup, voilà, cette forme aléatoire, ce rassemblement temporaire, autonome, qui peut réapparaître à un autre moment, disparaître à tout moment,
c'est un peu tout à fait. Et en plus, on l'a défini comme une revue d'artistes, ce qui peut poser question, mais...
Elle n'est pas une revue d'art, d'ailleurs.
Voilà, c'est nous qui la faisons, donc on peut la faire avec d'autres artistes. On l'a fait d'ailleurs avec d'autres artistes, mais on a cette liberté. On a très peu de comptes à rendre. Et c'est un objet qui est destiné à notre réseau, à la base. Et après, si le réseau s'étend ou si d'autres ont envie de s'y intéresser, on n'est pas contre. Mais c'est vraiment un objet... A priori refermé, mais totalement destiné à être ouvert. Refermé dans sa conception, mais il se retourne.
Oui.
Et il est aussi le produit d'une absence d'économie culturelle qui fait qu'il y a de moins en moins de production de qualité, on va dire, dans l'espace institutionnel de l'art. Et donc des initiatives comme la nôtre, à une époque, ne pouvaient même pas apparaître, alors qu'aujourd'hui, je pense qu'elles le peuvent. Il y a un basculement vers le... Il y a une histoire d'émiettement de tout. Et donc, nous, on essaye de maintenir comme ça une petite tasse. Voilà, une petite tasse avec des petits moyens, mais piquantes et résistantes.
Christophe Demart, quelques mots sur le morceau justement qui est sur le disque, sous le nom de Cocoon, que vous signez sous le nom de Cocoon.
Cocoon, ce morceau-là, il a été fait à une époque où j'étais un peu dans une période de repli, où je faisais la musique pour moi. Et donc c'était très fermé, là c'était fermé à une seule personne. Et
c'est un morceau qu'on voulait particulièrement dans la compilation, qu'on appréciait particulièrement.
Motherfucker Edit.
Alors le nom du morceau c'est Cocoon, voilà. Qui est extrait du tout premier album de Cocoon. Et Christophe était venu me voir justement à une soirée mouvement à l'espace EOF pour me donner la maquette de ce premier album qui est sorti peu de temps après. Voilà.
Merci d'avoir été avec nous tous les quatre ce soir. Merci, Pierre Bellouin, Nicolas Ledoux, Christophe Demarthe et Floriane Pochon. Tous les liens et les compléments sur nos multiples sujets de conversation de ce soir, fauneradio.com, la revue Le Disque et l'exposition, on l'a dit, Optical Sound, tout ça se trouve sur franceculture.fr à la page de l'Atelier du Son, avec aussi les commentaires, les réécoutes et les podcasts. L'Atelier du Son est préparé et coordonné par Inès De Bruyne et réalisé par Véronique Lamandour. Au son ce soir, il y avait Cédric Chatelu. Et attendez, j'ai pas fini. Aurélie Charron arrive dans quelques secondes et nous, on se retrouve vendredi prochain. Bonne suite de nuit à vous sur France Culture.
Écoutez!